acceptée, même si je vous l'avoue, j'ai un peu peur. J'ai peur des menaces, j'ai peur de me faire à nouveau frapper en manif comme je l'ai été, moi aussi, malgré mon écharpe. J'ai peur de ces mots qui n'ont plus aucun sens à l'Assemblée. Mais parce que vous êtes là, parce que vous risquez vos vies, et pour nos enfants, je ne lâcherai rien, nous ne lâcherons rien, et vous nous aurez toujours à vos côtés. Alors, no basaran!
C'est la photo remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la photo remembrement si plus rien n'arrête le vent. On était dans les chemins creux, sans lacets les amoureux, les rossignols, les alentours, leur sifflet des chansons d'amour. Avec les branches de sureau, les enfants faisaient des futios. Existe-t-il un seul ruisseau qui n'ait pas fait tourner moulin à eau? C'est la photo remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la photo remembrement si plus rien n'arrête le vent. Les techniciens sont arrivés, les techniciens ont ordonné aux paysans manipulés, toutes les haies ont arraché. Toutes les collines ils ont rogné, toutes les mares ils ont bouché, les verts prairies ils ont drainé, le gouvernement a torturé. C'est la photo remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la photo remembrement si plus rien n'arrête le vent.
La faute au remembrement par l'intercorale de Bassine Non-Merci, qui accompagnait au tribunal de Poitiers les quatre prévenus du procès du 27 mai 2026, qui, avant l'audience, ont donné cette conférence de presse ouverte par Benoît Jonnet et Nicolas Giraud, co-porte-parole de la Confédération paysanne, outrés par l'injustice de leur inculpation, révoltés par la mortifère loi d'urgence agricole votée par les députés de droite, texte qui annonce la mort des campagnes et de la vraie paysannerie au profit des voleurs, pollueurs, empoisonneurs de l'agro-industrie.
Il y a des parlementaires dont le seul objectif, c'est que nous, paysans et paysannes, on irrigue plus, on stocke plus d'eau. Mais pourquoi faire et pour qui, en fait? C'est ça la question qu'on a envie de leur poser. Eux, parlementaires, ils doivent défendre l'intérêt général. Donc pour nous, la priorité, c'est pas de pomper plus dans les nappes phréatiques, mais c'est bien de savoir quel usage on fait de l'eau, qu'il y ait un juste partage entre les besoins des citoyens et citoyennes, des collectivités, et évidemment de la production agricole. On est scandalisé par la tournure de ces débats-là, enfin, qui révèlent en fait ce schéma productiviste vers lequel on veut nous emmener, et qui révèle aussi une lutte des classes, pas avec nos collègues agriculteurs avec qui on travaille tous les jours, mais bien avec une oligarchie paysanne qui est aux manettes de la gouvernance, qui est en co-gestion permanente avec le gouvernement et qui oriente dramatiquement des politiques agricoles mortifères pour les paysans et les paysannes. C'est clair que pour eux, il faut qu'on soit moins de paysans et de paysannes dans les territoires pour être compétitifs. Et pour être compétitif avec qui, on se demande, parce que la compétitivité, on sait qu'on n'y arrivera jamais, puisqu'on a, et heureusement, pas les mêmes droits sociaux que nos voisins, heureusement, pas les mêmes topographies, pas la même agronomie. Enfin, il y a une diversité qui fait qu'on ne sera jamais compétitif. Et tant mieux, c'est pas ça l'objectif. L'objectif de l'agriculture, c'est bien de permettre une alimentation de qualité pour tous et pour toutes. En tout cas, c'est ça pourquoi on se bat, nous. Je laisse la parole à Nicolas sur les enjeux locaux de l'eau.
Moi, je suis paysan dans la Vienne, donc il faut savoir qu'ici, on est dans le bassin du Clain, qui a des forts déficits en eau, hein. Une gestion de l'eau qui est problématique depuis de très longues années. La seule vision qui a été apportée jusqu'ici, c'est de dire que c'est le stockage de l'eau qui va permettre de résoudre ces problèmes. Nous, Confédération Paysanne, on s'est mobilisé depuis il y a très longtemps contre ces ouvrages, hein. Les premières manifestations contre les bassines, ça date de 2002, en Charente. Voilà, il s'est fait quelques bassines à une époque dans la Vienne. Et ensuite, on a eu ce fameux projet de 41 bassines. Un accaparement de l'eau par les plus grosses fermes sur le territoire au détriment des autres. Sur Poitiers, il y a des menaces sur l'eau potable régulièrement. Alors que dans la Vienne, l'étude HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, donne des chiffres. Il faut fortement réduire les autorisations de prélèvement, mieux les répartir et prioriser l'accès pour le maraîchage par exemple. Le système qu'on a dans tout le Poitou-Charentes, c'est qu'en fait, c'est premier arrivé, première servi. Donc au printemps, là, dès qu'il se met à faire sec, tout le monde arrose à fond les ballons jusqu'à temps qu'il y ait des coupures. Donc il n'y a pas d'année où il n'y a pas une coupure. C'est bien la preuve que les milieux ne sont pas en capacité de fournir l'eau qu'on demande. On n'arrête pas de nous dire qu'on ne peut pas faire d'agriculture sans eau. Moi le premier, je fais de l'agriculture mais sans irrigation. Comme la grande majorité des paysans, 7% des surfaces agricoles françaises sont irriguées. Donc la majorité des paysans font sans irrigation et il n'y a pas d'autre choix face au changement climatique. Vendre l'irrigation pour tout le monde, c'est un leurre. Alors que sur la construction des méga bassines, tout est un peu en pause. Quand on vient, par exemple, le projet de 41 bassines est complètement annulé. On a gagné des choses, mais il reste encore du travail à faire sur cette question du partage de l'eau et de l'accès à l'eau pour le maximum de paysans.
Bonjour, moi c'est Benoît, je vais parler pour les soulèvements de la terre et parce que je suis prévenu, mis en cause aujourd'hui comme organisateur d'une manifestation interdite à Sainte-Soline. J'étais déjà là avec mon camarade Julien et nos camarades de la CGT de Solidaires en janvier dernier pour l'organisation de la manifestation interdite de Sainte-Soline 1 et maintenant on revient pour Sainte-Soline 2 et vous étiez mis en cause une fois sur deux, vous la conf, pour l'organisation de manifs interdites de Sainte-Soline. C'est un mouvement qu'on a souvent cherché à désigner comme un mouvement un peu d'écolo ou d'habitant d'un territoire qui se battrait contre les intérêts des agriculteurs. Et évidemment, votre présence rappelle que, en fait, c'est un mouvement paysan. Et quand on se disait qu'est-ce qui caractérise un peu ce mouvement, c'est de défendre l'eau et la paysannerie. Parce qu'en fait, ce que font les bassines, bel et bien, c'est de détruire les paysans. Et peut-être, évidemment, éventuellement, d'en protéger une minorité de plus gros paysans. Mais en fait, la réalité, c'est que la majorité des paysans, les infrastructures de type bassines, les monocultures qui vont avec, ça détruit les paysans. Et aujourd'hui, on le voit encore avec la loi d'urgence agricole, le gouvernement ne cesse, la FNSEA ne cesse de jouer un jeu qui serait de mettre en opposition ce qui serait les intérêts des agriculteurs d'un côté et les intérêts d'écologistes ou d'habitants des villes et des campagnes de l'autre. Et vraiment, moi, si j'ai envie qu'on retienne quelque chose, c'est qu'on défend aussi l'intérêt des paysans et la possibilité d'une paysannerie. Aujourd'hui, on va parler du passé, de manifestations passées. Et aujourd'hui, on est face à un tribunal. Et pourquoi on nous met devant des tribunaux ? C'est pour faire taire les mouvements, pour y mettre fin, pour les étouffer. Et c'était bel et bien le but de la répression qui s'est organisée à Sainte-Soline. C'était de terrifier un mouvement qui, vous en souvenez, était complètement ascendant, quoi. C'est-à-dire que ça faisait un an et demi qu'on organisait avec Bassine Non-Merci, avec la Confédération Paysanne, des manifestations qui allaient droit au chantier, qui disaient c'est plus possible que ces chantiers passent en force et se construisent vu leur impact destructeur sur nos territoires. Et c'était un mouvement qui, malgré effectivement des interdictions de manifester, malgré une présence des forces de l'ordre, il y avait de plus en plus de personnes qui venaient. Ce qui d'ailleurs nous renvoie à l'absurdité que nous, on soit trois devant un tribunal, comme si on était responsable du fait que des dizaines de milliers de personnes aient décidé de venir manifester pour un sujet qui leur semblait absolument vital. Et en fait, ce que Darmanin souhaitait, ce que ce gouvernement souhaitait, c'était qu'on s'arrête de protéger les terres et l'eau et qu'on ne se soucie plus que de tribunaux, que d'amendes, que d'assignations à résidence et qu'on ait peur. J'ai envie de dire, avant qu'on retourne au tribunal parzélé du passé de Sainte-Soline, que ce mouvement a continué. Il a continué, je veux dire, du côté des soulèvements de la terre, pas plus tard que du 10 au 12 juillet, on va faire une grande manif. Le méga canal prend l'eau, c'est un projet qui est très problématique. 6000 hectares de terres agricoles qui sont concernés, c'est plusieurs fois la 69, plusieurs fois la ZAD qui vont être artificialisées, c'est des problèmes d'accès à l'eau pour des questions de méga infrastructures logistiques à 10 milliards. On va se donner rendez-vous pour manifester contre ce chantier du 10 au 12 juillet. Le 26 septembre, avec les soulèvements de la terre, avec nos camarades de la Confédération Paysanne et de Bassine Non-Merci, on va être devant un des plus gros sites de production de pesticides du pays pour dire que c'est plus possible qu'on se fasse empoisonner par les pesticides. Et évidemment, le sujet des bassines, le type de production agricole qui vont avec les bassines et le type de production qui nécessite des pesticides, c'est des sujets qui sont tout à fait reliés. C'est important aujourd'hui qu'on ne se dise pas « Ah ça y est, ils sont devant un tribunal et ils se sont arrêtés ». Dans bien des territoires, on est en train d'obtenir gain de cause, quoi. Ils ont annoncé des projets de bassines, mais les bassines ne se font plus. Sainte-Soline est vide et tous les chantiers qu'ils avaient annoncés dans les Deux-Sèvres, les méga-bassines qui étaient projetées dans la Vienne, pour l'instant, elles sont à l'arrêt. Donc je dis pas qu'on a gagné, faut pas être trop triomphaliste parce que eux, ils arrêtent pas et ils font passer la loi d'urgence agricole pour essayer de passer en force. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je suis tout à fait certain si à l'automne, grâce à la loi d'urgence agricole, ils tentaient de démarrer de nouveaux projets de bassines, il y a des dizaines de milliers de personnes qui seraient de nouveau là pour les arrêter. Parce qu'on demande toujours l'arrêt total des projets de méga-bassines et des projets d'infrastructures qui accaparent l'eau. Là-dessus, vraiment, on n'a pas changé, notre ligne n'a pas changé, répression ou pas. Une ou deux choses que moi j'ai prévu de dire au tribunal pour les soulèvements de la terre avec mes camarades, en droit, il y a quelque chose qui est souvent invoqué, c'est la question de l'état de nécessité. Au vu de l'urgence climatique, il y a 6 des seuils critiques irréversibles de mise en cause de l'habitabilité de la planète, et notamment celle du cycle de l'eau douce qui ont été franchis dans les 10 dernières années. Et là, on a un parquet qui a expliqué qu'il n'y avait pas d'urgence à agir, qu'il n'y avait pas d'état de nécessité climatique, donc qu'on devait être condamné. Alors vous voyez qu'il y a des fous furieux, des milliardaires cinglés, des hommes politiques avides de profit, inféodés, un certain nombre de multinationales, qui soient climato-sceptiques, qui nous disent qu'il n'y a pas de nécessité à agir, on le constate douloureusement que trop bien tous les jours. Mais qu'on se retrouve dans un cadre censément sérieux d'un tribunal, avec une proc, qui nous explique qu'il n'y a pas d'état de nécessité. Honnêtement, j'ai été extrêmement choqué. Si on s'est retrouvé à agir hier à Sainte-Soline et si on se retrouve à agir demain devant n'importe quel prochain chantier de méga-bassine, c'est parce qu'on considère tous qu'il y a état de nécessité et qu'il y a urgence. Je voudrais quand même saluer le travail exemplaire, formidable, d'investigation par certains de vos confrères de Mediapart et Libération. Pour nous, c'était assez évident que tout ce qu'on subit là, en gros, on est les boucs émissaires d'un gouvernement qui cherche à s'innocenter en trouvant d'autres coupables et à dévier l'attention et à se couvrir de ses crimes. Les procureurs, jusqu'aujourd'hui, ont couvert Darmanin. D'ailleurs, Darmanin, il est passé de l'intérieur à la justice, donc maintenant, c'est lui qui dirige les procureurs et qui s'assure qu'il ne va pas être poursuivi pour ses crimes. Darmanin, dès la première manif de Sainte-Soline, il avait dit méchant éco-terroriste. Ensuite, il a demandé aux forces de l'ordre de nous traiter de la manière dont ils nous avaient désignés. Et ensuite, ils ont été chercher des coupables, des organisateurs, pour se couvrir de leurs crimes. Et le travail qu'ont fait Mediapart et Libération, c'est un travail excellent parce qu'il pallie au manque de la justice. C'est que le procureur avait tous les outils en main pour faire le même travail que Mediapart et Libération et trouver les coupables. C'est pas seulement le flic qui a tiré sur Serge, vous voulez, c'est les donneurs d'ordre, c'est les hauts gradés de la gendarmerie, c'est Darmanin, et il les a couverts jusqu'ici. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va redire au tribunal. Je me demande tous les jours, est-ce qu'il y a aussi une justice pour les dirigeants de ce pays qui martyrisent leur population et qui les empêchent de se rebattre pour leurs droits vitaux? Et c'est ça qu'on va mettre en cause au tribunal aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Julien Leguet, co-porte-parole de Bassine Montmercy.
S'il y en a un qui est bien aujourd'hui sous les fourches godines de la justice et qui a eu à subir de multiples passages, je crois que je suis à mon sixième de l'année, ben j'en suis. Il semblerait que je sois une des têtes à abattre du mouvement par rapport à mes fonctions de porte-parole que je remplis depuis 8 ans au sein du collectif Bassine Montmercy. Première information, c'est que non, je ne suis pas encore équipé du bracelet électronique. Cependant, ça a failli arriver puisque le JAP de Niort me convoquait ce matin à 11h15. Il a fallu faire valoir que c'était peut-être un petit peu dur physiquement de se dédoubler et donc je serai assigné à résidence durant le mois de juin. La stratégie mise en place par le gouvernement, utiliser l'outil judiciaire à l'encontre d'écologistes en fait et de gens qui se battent pour le bien commun, c'est évidemment l'autre face de la pièce de ce qu'on a vécu en termes de violence policière à Sainte-Soline. À Sainte-Soline, on était au paroxysme du mouvement sur les retraites. À Sainte-Soline, il y avait vraiment quelque chose qui se jouait de très fort. C'était un événement national et toutes les énergies pour un autre monde, pour une autre société, étaient présentes ce jour-là. À travers la pluie de bombes qu'on a eu à subir ce jour-là, c'était véritablement un effet blast qui était recherché, de créer des dommages dans nos corps et dans nos esprits tels que ça nous vaccine de tout esprit de résistance. Darmanin, Vestieux, Dubé, toute la chaîne de commandement, tous ceux qui mettent en place cette stratégie, vous devez faire le constat d'échec. Votre pluie de bombes n'a pas généré ce que vous attendiez. Au contraire, on est encore là aujourd'hui pour en témoigner. La lutte contre les méga-bassines et pour un monde simplement vivant, elle est plus vive que jamais. Je ne nie absolument pas les souffrances que ça a généré chez tous d'entre nous en réalité. Tous ceux qui auront vécu Sainte-Soline de près ou de loin seront marqués à vie. Néanmoins, on est là, néanmoins on continue à résister et néanmoins on ne tombe pas dans le panneau. Le fait de rebondir à chaque fois qu'on est convoqué devant la justice, de dire on est bien conscient que ce sont des procès politiques. Vous visez des individus, mais à travers les individus, c'est un mouvement que vous cherchez à pénaliser, à faire taire intégralement. Mais je trouve que la plus belle réponse, c'est de faire ce qu'on fait à chaque fois. De mettre toute cette énergie, de se retrouver, de vivre ensemble, de bouffer ensemble, de rigoler ensemble, de réfléchir ensemble, de profiter de ces moments-là pour que ce soit des moments structurants. Les outils de la répression sont en train de s'affiner en face. Il faut qu'on apprenne, là aussi, à grandir. Les prédateurs nous rendent plus intelligents. Et s'ils nous attaquent, bien, il faut qu'on réfléchisse collectivement. Ils pensent que le fait de nous assommer à grands coups d'amende et de dommages et intérêts, ce serait une nature à me faire taire, nous faire taire et par extension, c'est ce qu'on appelle la procédure Bayon. C'est de multiplier les recours pour nous faire taire, nous empêcher d'agir. Les procureurs, là-dedans, jouent un rôle majeur et dégueulasse. Les procureurs sont aux ordres de Darmanin. Par exemple, quand des camarades se font attaquer à leur domicile, se font agresser comme mon neveu ou comme Jean-Jacques, qu'on vient pendre au-dessus de la route à 6 mètres de haut et qu'on porte plainte et que ça n'est jamais suivi des faits, ou comme dans la situation de la plainte qui est posée par les proches de Serge, de Mika, d'Alix et d'Olivier, que ça débouche sur des non-lieux, ça témoigne de véritables dysfonctionnements de notre justice, dont les procureurs sont les rouages essentiels. Ce sont les procureurs qui ont le choix d'étudier et d'instruire une plainte. Ce sont les procureurs qui vont déterminer les moyens mis en œuvre d'investigation. Dans le cas de mon neveu, même pas une enquête de voisinage après qu'il ait été tabassé. Et si on reprend le cas dramatique de l'enquête menée par l'IGGN qui conclut à « nous n'avons pas identifié ceux qui ont des comportements criminels qui ont abouti à ces blessures aussi importantes chez nos camarades » et de se rendre compte qu'avec les mêmes images, la presse arrive à révéler et à trouver l'identité, évidemment que ça doit nous alerter. Et ce qui se passe aujourd'hui devant les tribunaux, ça vient profondément questionner des dysfonctionnements de cette justice et du contrôle des forces de police et de gendarmerie par elles-mêmes. Évidemment que c'est dysfonctionnant. Évidemment qu'un Condé ne dénoncera jamais un Condé, quand bien même aurait-il tué l'un d'entre nous. On est à l'aune aujourd'hui d'une nouvelle offensive massue. La LUA, elle a une vocation, c'est de rendre légales des pratiques illégales mises en place par l'État depuis des années. C'est d'acter le fait que, par exemple, des préfets n'appliquent pas des décisions de justice par rapport, par exemple, aux autorisations uniques de prélèvement qui vont définir les volumes distribués à l'agriculture et en fait à l'ensemble des usages. Ça vient, par exemple, acter le fait que dans le cas de réunions publiques qui devraient se tenir en même temps qu'il y ait des projets de bassines, ben, il n'y ait plus de réunions publiques. Et ces mêmes-là pensent que c'est en réduisant l'espace démocratique qu'ils vont faire la paix de l'eau, mais ils se fourrent le doigt bien profond dans l'œil. Ce qu'on réclame depuis le début sur ces questions d'eau, c'est tout le contraire. C'est plus de démocratie et c'est plus de transparence. Et à l'inverse des propositions dégueulasses et nulles du député du coin, que l'agriculture soit bien représentée dans ces instances de l'eau, mais à sa juste hauteur, et que ce ne soit pas parce qu'on consomme 60% de l'eau qu'on ait 60% des bouvois. En France, le principe qui devrait au contraire être en place, c'est le principe pollueur-payeur. Et c'est tout l'inverse qu'on vit, puisque le secteur le plus polluant et qui remet en cause les captages d'eau potable, la pérennité des milieux aquatiques, la simple vie dans les milieux aquatiques, c'est justement cette agro-industrie mortifère où on est, vous le savez, sur des territoires qui en France sont les plus gros consommateurs de pesticides. Et les faits, vous allez les retrouver dans les robinets, vous allez les retrouver à La Rochelle avec des cancers pédiatriques, vous allez les retrouver avec une biodiversité du clin quasiment réduite à néant, tellement tous ces produits pesticides, hein, le terme est très mal choisi, ce que ces produits tuent, ça n'est pas la peste, c'est la vie, c'est tout simplement la vie. Donc aujourd'hui, on est là pour faire face une nouvelle fois, pour leur dire, on ne se taira pas, on continuera d'agir pour le bien commun, on continuera d'agir pour les générations futures, on continuera à se mobiliser. Si le projet funeste de Darmanin, de Genevard, etc., était de dire, au mois de septembre, on lance une grande offensive, on essaye de lancer des chantiers un peu partout en France, des mini-bassines qui seraient soi-disant plus admissibles, enfin, soyons d'ores et déjà mobilisés et prêtes à lancer l'alerte pour organiser de nouvelles mobilisations de terrain. J'en appelle à tout un chacun parce que ce qui fait que jusqu'à maintenant on a réussi à faire face, c'est que partout en France, les gens se mobilisent et les gens sont attentifs. Aujourd'hui, il existe 13 bassines non merci locaux qui veillent, mais en fait, il en faudrait un par département. En fait, c'est que bassines non merci, comme les soulèvements de la terre, ben en fait, c'est des mouvements très ouverts et très horizontaux avec une composition très large. Nous sommes les soulèvements de la terre, mais comme les soulèvements de la terre sont bassines non merci, et nous sommes amis de la conf, et la conf fait partie du mouvement. Et c'est bien ça qu'ils n'ont pas compris. On se retrouve à chaque fois devant les tribunaux, on a tous le même profil. On est tous des mâles blancs de plus de 40 ans. Et ils pensent qu'il y a des chefs dans notre mouvement, et en fait, ils reproduisent leur système de pensée. Bassines non merci, les soulèvements de la terre, la confédération paysanne, c'est pas ces manières de fonctionner, c'est pas ces archaïsmes-là, c'est pas la hiérarchie, c'est le peuple en marche qui se bat pour l'eau et pour le vivant. No Bassaran!
Journaliste à Libération, Laurent Nunez, il a dit que suite à nos révélations, les tirs tendus et les réactions des gendarmes étaient appropriés.
Les tirs tendus sont illégaux de base. Ils ont tenté, comme ils font dans la répression des révoltes des quartiers populaires, de plus en plus sur les mouvements politiques, de couvrir leurs hommes par tous les moyens possibles. Sauf qu'il se trouve qu'il y a des gens qui, pour une fois, se sont donné les moyens, ont eu peut-être les moyens, le soutien, la possibilité de dévoiler la vérité brutale et crue. Et ça a mis du temps. Je veux dire, nous, on l'a dit pendant longtemps. Et je trouve ça hallucinant qu'il faille un travail fait par des journalistes indépendants et d'investigation. Et heureusement qu'il en existe. On voit bien pourquoi l'extrême droite et toute une partie de ce gouvernement cherchent à les faire disparaître et la possibilité de ce type de journalisme. Ce que vous avez fait avec Mediapart, c'est de pallier au manquement grave de la justice et du parquet, sciemment et volontairement organisé par la personne qui était ministre de l'Intérieur à l'époque et qui est ministre de la Justice aujourd'hui et qui est couvert par son collègue actuel ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui du coup va dire que les tirs qu'auraient pu être mortels, volonté de martyriser des gens qui étaient là pour défendre l'eau, que ces tirs étaient proportionnés, ce qui est vraiment une abomination.
Un élément qui m'a profondément choqué dans les propos de Nunez hier, c'est qu'il osait prétendre que des sanctions avaient déjà été prises à l'encontre de certains gendarmes qui étaient présents à Sainte-Soline. Je pense que c'est un mensonge éhonté et j'exige, et j'espère que les médias et des députés iront chercher qui sont ces gendarmes qui ont été sanctionnés. Il n'y en a pas à ce jour. Une exigence citoyenne, dissolution de l'IGGN, dissolution de l'IGPN, contrôle des forces de l'ordre par des juges indépendants et par des observateurs indépendants.
Il y a une lutte des classes qui se fait entre la masse des agriculteurs et des agricultrices et une petite oligarchie agricole qui draine les subventions publiques, qui accapare l'eau pour leurs propres intérêts, pour les intérêts de l'agro-industrie qu'ils représentent et qui vont tous nous faire crever, nous les paysans, les paysannes. Ça vous échappe pas qu'on est dans une bascule en ce moment, terrible en fait, où on va perdre l'agriculture transmissible en fait, de génération en génération, qui peut se transmettre dans la famille, mais ailleurs aussi. Demain, j'ai l'impression qu'on va être sur des firmes, et la loi d'urgence le permet, et la répression qu'on subit, judiciaire, policière, elle permet ça en fait, c'est de ça qu'on parle.
Sur l'oppression du mouvement écolo en France, parmi les témoins qui sont très attendus, il y a Michel Forst, commissaire à l'ONU, justement sur ces questions de protection des défenseureuses de l'environnement, et qui avait, suite à Sainte-Soline, vraiment alerté les instances internationales sur une dérive très inquiétante des doctrines du maintien de l'ordre à la française, et en particulier sur une oppression systémique des militants écolos. Sainte-Soline en est peut-être une des facettes les plus visibles, mais elles ne doivent pas faire oublier que l'État français a déjà tué des militants écolos. Il ne faut pas oublier Rémi Fraisse, il ne faut pas oublier le Rainbow Warrior, Vidal Michalon. Cette répression qu'on vit par les armes de la police, par les outils répressifs de la justice, c'est les mêmes méthodes qui sont encore en cours pour mater les mouvements sociaux dans les quartiers populaires, dans les dom-toms, je crois qu'on ne dit plus dom-tom. Imaginez si on avait eu accès aux caméras piétons des CRS en Kanaki. Imaginez les horreurs proférer l'immondice du comportement de ces hommes-là. Pour moi, aujourd'hui, c'est un procès pour l'histoire, c'est l'histoire au temps long. Et j'ai pas envie de dire, j'en ai rien à fiche de la décision que prendront ces juges. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui restera dans l'histoire, qu'est-ce qui restera dans nos cultures collectives et communes de cette date du 25 mars 2023, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et de quoi c'est révélateur. Et évidemment qu'on combattra jusqu'à ce que les méga-bassines ne fassent plus partie de la gamme des dites solutions face au réchauffement climatique. Mais le combat, il ira aussi jusqu'au jour où on obtiendra que les Darmanins, que les préfets, que la chaîne de commandement, que tous ceux qui ont construit ces stratégies de Fortin et qui ont envoyé la charge avec les quads aient à répondre devant la justice. Parce que les vrais organisateurs de la manif de Sainte-Soline et qui ont donné cette situation tout à fait incontrôlable, c'est évidemment la chaîne de commandement et c'est évidemment les ministres qui ont rendu ça possible. Il y a déjà une plainte qui a été portée contre Darmanin. On l'avait fait à l'occasion des 1 an de Sainte-Soline. Et donc nous sommes 1312 à avoir porté plainte contre Darmanin pour avoir menti sous serment devant une commission d'enquête parlementaire. Et tout à l'heure, on parlait de dysfonctionnement de notre État et certainement qu'il faut imaginer une 6e République. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un ministre, il suffit qu'il soit à nouveau ministre pour ne pas être jugé par la justice du commun des mortels. Si aujourd'hui Darmanin devait comparaître, ce serait devant la CJR, la Cour de justice de la République, qui est composée majoritairement de députés de sa majorité et de son alliance. Donc évidemment que c'est dysfonctionnant. On n'a qu'une hâte, c'est que Darmanin ne soit plus ministre pour que de nouveaux recours puissent être lancés à son égard.
Qu'est-ce que vous risquez du coup pénalement aujourd'hui, vu que c'est le procès en appel ?
En première instance, j'ai été condamné pour Sainte-Soline à 3 mois de prison avec sursis. à une interdiction de territoire de 3 ans, territoire du département des Deux-Sèvres. C'est pas rien, c'est des décisions de bannissement politique qui font que l'endroit qu'on cherche à protéger, l'endroit où on a créé des liens pendant des mois, des années pour un mouvement, on en est interdit. C'est vraiment des décisions qui visent juste à étouffer ces mouvements-là et c'est des décisions qui ont été appliquées de manière systématique. Mon avocat a vraiment, à juste titre, plaidé pour que cette interdiction de territoire pour l'organisation de Sainte-Soline soit annulée. J'ai obtenu gain de cause, quoi. C'est-à-dire qu'en première instance, mes 3 mois de prison avec sursis ont été transformés en amende, ce qui n'est pas satisfaisant. Je veux dire, moi, ce que j'attends, c'est la relaxe, mais disons que ma peine a été diminuée et mon interdiction de territoire s'est vue levée.
Parce qu'on a été jugé à l'origine avec un verdict rendu le 9 janvier 2024, où nous étions 9 à comparaître sur plus de 12 chefs d'inculpation sur des dates très différentes. Donc même pour nous, c'était extrêmement compliqué de nous y retrouver. Et pour le coup, le tribunal de Poitiers a décidé de repasser jugement par jugement. C'est ce qui fait que moi, d'un jugement, je me retrouve avec 3 audiences différentes. Donc en première instance, sur Sainte-Soline 1, Benoît avait pris 3 mois. On a un autre camarade qui avait pris 6 mois. Et j'avais pris 6 mois pour Sainte-Soline 1. Et 2 camarades syndiqués, Hervé Auguin et David Baudin, avaient pris des peines d'amende. Sur Sainte-Soline 2, Benoît avait pris 3 mois, j'avais pris 6 mois. Notre autre camarade qui n'a pas pu faire appel de la décision a pris 6 mois. Nicolas et Benoît de la Conf avaient pris pour Nicolas interdiction de territoire des Deux-Sèvres. On a tous l'interdiction de port d'armes. C'est peut-être la peine dont on se fiche le plus. Moi, je suis objecteur de conscience. Mais quand ils donnent cette peine-là, en fait, ils construisent un narratif qui laisserait à croire que ça nous intéresserait. Donc, faut pas être dupe. Je crois que Benoît et Nico avaient également pris des peines d'amende. Ce qui fait que du coup, le pronostic est très dur à faire aujourd'hui. Moi, je me suis retrouvé avec un procès pot pourri dans lequel il y avait tout un tas de faits de dégradation, de vol de pelle à grain. J'aurais menacé le fait de rendre public une information qui aurait dû l'être, à savoir le nom des irrigants qui bénéficient de Sainte-Soline. Et là, dans ce procès pot pourri, j'ai été très surpris parce qu'en première instance, j'ai copé de 20 000 euros de dommages et intérêts et de sanctions pénales financières. Alors que ça n'était pas requis par la procureure, c'est là que j'ai eu la très mauvaise surprise d'écoper d'une peine d'emprisonnement ferme avec assignation et aménagement, avec port d'un bracelet électronique à mon domicile. Donc moi aujourd'hui, je pense qu'on va être jugé par la même juge, Madame Locke, celle qui préside très souvent la cour d'appel de Poitiers. Sur Sainte-Soline 1, il y a eu des peines plutôt plus clémentes. Sur mon affaire, là, complètement inattendue, et je le redis, c'était une décision d'une rare violence. Je la trouve scandaleuse et vu le nombre de soutiens que j'ai reçus d'un peu partout en France, je crois que je ne suis pas le seul à trouver que cette décision elle est parfaitement scandaleuse. Donc dans quelle mesure Madame Locke et ses deux assesseurs sont étanches ou perméables à la vérité, ce que Libé et Mediapart ont posé. Si elle veut dire la justice pleine, dans quelle mesure elle prend d'abord en considération qui a généré des heurts aussi violents, de telles blessures sur ce champ de bataille qui est devenu Sainte-Soline. Voilà pour la synthèse. Et si vous y perdez, c'est normal. D'ailleurs, il semblerait que même la justice s'y perde un petit peu parce que j'ai failli me retrouver convoqué devant le juge d'application des peines ce matin à 11h15 à Niort, qui est à plus d'une heure de route. Il a fallu que mon avocat se retourne vers le juge d'application des peines pour dire là, matériellement, on ne va pas pouvoir se dédoubler pour qu'elle accepte un renvoi au mois de juin.
La FNSEA, la dernière fois qu'il y a eu un rassemblement ici, elle a dit que c'était uniquement une lutte de petits bobos du centre-ville.
La Confédération paysanne fait 20% aux élections professionnelles, on n'est pas des petits bobos de centre-ville. Moi je suis la 6e génération paysan, mes parents faisaient de l'agro-indus et on s'est révélé aussi en se disant mais à un moment donné, est-ce qu'on va tous crever pour l'intérêt de quelques-uns quoi. Le cynisme de ces gens-là, quand ils portent la voix de ceux qui représentent les agriculteurs dans le couloir des ministères. Ils n'en ont rien à foutre des adhérents qui les représentent. Ils n'en ont rien à foutre. Dernièrement, il y avait des réunions sur la crise des engrais. Je peux vous dire que la seule chose qui les tracasse, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer demain à vendre des engrais aux paysans et paysannes ? De savoir s'ils vont crever en achetant des engrais, ils n'en ont rien à foutre. Quand je parlais des classes, elles se matérialisent là. C'est comme ça que les parlementaires en parlent, en tout cas quand ils parlent de la FNSEA. On a parlé aux agriculteurs. Ils n'ont pas parlé aux agriculteurs. Ils ont parlé, encore une fois, à une grande bourgeoisie capitaliste qui n'œuvre que pour eux, pas pour les paysans et les paysannes.
Ça fait 30 ans que je suis paysan dans la Vienne, donc j'ai été élu à la Chambre d'agriculture pendant 12 ans, donc le discours de la FNSEA, on le connaît. Ce que je peux leur répondre, la FNSEA, c'est que eux, je les vois défiler en disant non à HMUC. En fait, ils disent non à la science, ces gens-là, alors qu'on a une étude là qui est en train de nous dire qu'il y a trop de volets motorisés dans la Vienne, il faut baisser. ils ne veulent pas l'entendre parler. Mais ensuite, M. Duplomb qui vient leur servir la soupe en disant on va soumettre ces études-là à des questions économiques. En fait, leur modèle des méga-bassines, économiquement, ça ne fonctionne pas. Ça les envoie dans le mur. Nous, on dit qu'il faut installer des paysans nombreux. Et justement, il y a un certain nombre de projets diversifiants où on aura besoin d'eau. Il faudra arrêter les méthaniseurs. Ici, dans le département de la Vienne, il y a 18 millions de mètres cubes autorisés sur le bassin du Clain. Et à quelques kilomètres ici, vous avez deux fermes qui monopolisent 1 million de mètres cubes chacune.